Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui.
Notre série actuelle est consacrée aux chapitres 14 et 15 du livre de l'Exode. Claude va commencer en nous parlant du contexte de ce livre et de l'histoire qu'il nous révèle jusqu'au chapitre 13. Claude, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Merci Yann et bonjour à tous. Après avoir vécu de longues années de souffrance en Égypte, le peuple de Dieu se trouve enfin libre. En Égypte, il était réduit à l'esclavage, mais Dieu est miraculeusement intervenu en faveur de ce peuple. Car après une série de fléaux terrifiants, le Pharaon a cessé de résister à la volonté de Dieu et il lui a permis de partir. Le peuple de Dieu est donc parti d'Égypte et a commencé une longue marche à travers le désert pour rejoindre le pays de Canaan. Cependant, le Pharaon a rapidement regretté sa décision de libérer ce peuple, et il a rassemblé son armée pour partir à sa poursuite. Nous reprenons cette histoire vraie au moment où l'armée égyptienne s'approche du peuple de Dieu. Cédons la parole à notre lectrice.
L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est, qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars, s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et y sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte !» L'Éternel dit à Moïse « Étends la main sur la mer, et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage !» Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux, et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent, et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagé à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur.
Merci Sandra. À présent, nous repassons la parole à Claude qui va nous aider à mieux comprendre ce récit biblique.
Merci Hélène. Ce récit relate un événement extraordinaire. La victoire finale de Dieu sur Pharaon et la libération totale du peuple de Dieu de la puissance d'Égypte. Car, à partir de ce miracle incroyable, le peuple d'Israël ne sera plus opprimé ou harcelé par les Égyptiens. Que devons-nous apprendre de ce récit? D'abord, nous apprenons que le Dieu d'Israël, ce Dieu qui se dévoile tout au long du livre de l'Exode, est souverain sur la nature. Et c'est bien normal, car c'est lui qui l'a créée. Dans ce récit, Dieu intervient directement sur la nature pour opérer des prodiges extraordinaires qui permettent au peuple d'Israël d'échapper à une tragédie, mais qui finissent par anéantir l'armée égyptienne. Il nous est dit que Dieu était présent avec son peuple dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Par le biais de ces colonnes, Dieu s'est interposé entre son peuple et l'armée égyptienne qui avançait sur lui. C'est ainsi qu'il a mis son peuple à l'abri du danger, le temps qu'il traverse la mer Rouge. En parlant de la mer Rouge, là aussi nous constatons la puissance souveraine de Dieu sur le monde naturel. Dieu donne un ordre et un vent souffle, séparant les eaux de la mer Rouge et laissant un passage à sec sur lequel le peuple d'Israël peut fuir la menace militaire égyptienne. Puis une fois son peuple sain et sauf, Dieu donne un autre ordre et le vent s'arrête et la mer se referme sur l'armée égyptienne qui poursuivait le peuple d'Israël. Nous apprenons que la création entière reste soumise au Dieu souverain. Ensuite, nous apprenons que la délivrance du peuple d'Israël est du début à la fin l'œuvre du Dieu souverain. La libération du peuple dépendait entièrement de l'initiative et de l'action du Dieu Tout-Puissant, du Dieu de la grâce et du Dieu qui tient ses promesses. Le peuple d'Israël était faible, impuissant et vulnérable. Ce peuple n'a rien contribué au salut qu'il a reçu de la part de Dieu. Son salut appartient à Dieu seul. À vue humaine, ce peuple était sans défense, devant les chars du Pharaon. Mais Dieu est venu à son secours. Dieu était son défenseur et sa forteresse. Il a agi en guerrier. Il a combattu l'armée égyptienne à la place de son peuple, qui en cette occasion n'a pas du tout pris part à cette bataille déterminante. Il faut l'affirmer, le Nouveau Testament présente la délivrance apportée par Jésus de la même manière. Le salut du chrétien dépend entièrement de l'initiative et de l'action de Dieu, de l'œuvre qu'il a accomplie à travers la croix et la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul se sert de deux images pour confirmer cette pensée. Selon lui, nous étions morts dans nos péchés, mais en Christ, Dieu nous a fait don de la vie spirituelle et éternelle. Une personne morte ne peut rien faire pour remédier à sa situation. Non, la vie que nous avons en Christ est un cadeau de sa grâce, obtenu non pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a subi le châtiment pour nos péchés, à notre place. Puis, selon l'apôtre Paul, nous étions des esclaves du péché. Or, un esclave ne peut rien entreprendre pour changer son statut. Cependant, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu peut nous affranchir de notre esclavage du péché. Jésus est notre Rédempteur, c'est-à-dire qu'il a payé le prix de notre rachat, de notre liberté et du pardon de nos péchés. Oui, comme le peuple d'Israël, nous étions faibles, impuissants, vulnérables et condamnés à mourir. Mais Dieu agit par grâce en envoyant Jésus pour nous délivrer du danger de la mort éternelle. Notre salut appartient à Dieu seul. Nous n'y contribuons en rien. Christ a tout accompli en notre faveur.
Merci Claude d'avoir orienté nos regards sur ces vérités importantes. À présent, Didier est de retour parmi nous pour nous parler d'une autre leçon pertinente qui se dégage du texte lu. Bonjour Didier.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Notre premier invité a beaucoup insisté sur le fait que la délivrance du peuple d'Israël, tout comme le salut du chrétien, dépend entièrement de l'action de Dieu en notre faveur. Et il a raison. Cependant, pour compléter cet enseignement important, je voudrais réfléchir à la question suivante. Que devaient faire Moïse et le peuple d'Israël pour vivre la délivrance que Dieu leur accordait par grâce ? Dans un premier temps, Dieu a demandé à Moïse d'étendre sa main vers la mer Rouge, afin que les eaux se séparent. Puis, les Israélites devaient emprunter le chemin qui s'ouvrait à travers la mer. Nous constatons alors que Moïse et les Israélites n'étaient pas entièrement passifs. Pour vivre leur délivrance, il fallait que Moïse et le peuple placent leur confiance en Dieu et qu'ils suivent ses instructions. Il fallait qu'ils aient la foi, qu'ils se soumettent à Dieu et lui obéissent. Il en est de même pour le chrétien. Dieu a pourvu à notre salut en Jésus-Christ, car par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a accompli tout ce qui est nécessaire pour obtenir pour nous les riches bénédictions telles que le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu, notre adoption en tant qu'enfant du Père Céleste, la délivrance de Satan et des mauvais esprits, l'espérance de la résurrection et la vie éternelle. Cependant, comment jouir de toutes ces bénédictions merveilleuses ? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 14, nous lisons « Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait « Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Le message de Jésus se résume donc en deux mots, la foi et la repentance. Par la foi, nous mettons notre confiance en Jésus, certains qu'en lui, nous obtenons les bénédictions que j'ai énuméré tout à l'heure. Par la foi et la repentance, nous nous tournons vers Jésus pour le suivre, pour l'aimer, pour nous soumettre à lui et pour vivre à la lumière de son enseignement. Je voudrais terminer avec une illustration. Imaginez que vous vous promenez dans un quartier inconnu de votre ville. Vous passez devant une maison qui est, en apparence, négligée et abandonnée, mais sur la porte en bois, il y a une affiche qui retient votre attention. Il y est écrit « Derrière cette porte se trouve un trésor qui changera votre vie à jamais. Entrez et prenez-le. Que feriez-vous ? Quelqu'un a mis un trésor à votre disposition. Mais pour en jouir, il faut y croire, il faut agir, il faut ouvrir cette porte. De la même manière, en Jésus-Christ, Dieu a mis tous les trésors du salut à votre disposition. Qu'allez-vous faire ? Jésus a tout accompli en votre faveur. Mais pour en jouir, il faut le croire et il faut le suivre.
Merci Didier pour cet appel à la foi et à la repentance et pour ce rappel aussi que le salut en Jésus-Christ représente un trésor spirituel d'une valeur inestimable.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre notre étude du livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.